Bien, écoutez, nous sommes heureux de se réunir dans ce chalet de montagne, ce refuge de montagne. Écoutez, bien les difficultés à Emmanuel Combarel, puisque il avait des petits pneus. Qu'est-ce que tu as comme marque de voiture?
Hein? Une Fiat.
Et que donc il a eu du mal à monter. C'est la deuxième des deux manifestations qui, en quelque sorte, commémore l'ouverture du centenaire anniversaire de l'emménagement des parents de Corbusier, de Corbusier lui-même. Il a vécu ici pendant six ans. Étant le 28 aujourd'hui, je crois, l'emménagement étant le 29 octobre 1912. Hier, nous avons rencontré surtout des historiens, on a débattu des questions historiques quant à la personnalité de Corbusier, ses rapports avec sa famille, l'histoire de la maison, sa décadence, sa place dans l'histoire de l'architecture. Et aujourd'hui, je vais essouffler, pourtant je n'ai pas monté à pied, et aujourd'hui on va rencontrer quatre architectes, deux Français et deux Suisses, on va encore un des Suisses et d'origine italienne, c'est M. Tropeano qui est là, pour envisager un peu ce qu'il reste de Corbusier, puisque vous savez que Corbusier est un très grand doctrinaire de beaucoup de choses différentes d'ailleurs, puisqu'il a, dans sa vie assez longue, il a soutenu des points de vue très différents, du style sapin jusqu'au purisme, du purisme architecture plus brutaliste de la fin de sa vie, etc. Donc il y a plusieurs Le Corbusier. Et Le Corbusier a été extraordinairement détesté par les architectes quelques années après sa mort, presque universellement, tout le moment qu'on appelait le monde post-moderne, détestait Le Corbusier pour des raisons diverses, notamment pour son urbanisme. En revanche, on a vu apparaître dans les années 80 un renouveau très fort de Le Corbusier chez un architecte américain qu'on appelait les Files, certains Français qu'on appelait parfois néo-corbusier ou néo-moderne. Et puis, aujourd'hui, c'est devenu un personnage historique que tout le monde considère avec vénération, j'imagine, nous verrons. Et donc, c'est le moment de savoir ce que chacun, ces architectes qui sont très différents les uns des autres, peut porter en lui, soit de sympathie, soit d'admiration, soit de souvenir, soit de grief, à l'encontre de celui qu'on peut quand même considérer comme le plus grand architecte du XXe siècle. Alors voilà, je voulais présenter, mais il faudrait qu'il s'assied. Alors on a décidé de procéder ainsi, j'aurais proposé un scénario qui fonctionne ainsi. Le Corbusier a eu beaucoup de formules, c'est un magnifique écrivain, c'est un magnifique épistolier, c'est un magnifique aussi inventeur de slogans et de formules. Donc j'ai trouvé quelques formules très caractéristiques de la pensée de Corbusier, je les proposerai et puis ils réagiront selon leur propre sentiment à ce qu'ils peuvent en penser aujourd'hui. Alors ils sont donc quatre, juste à ma gauche c'est Ruggero Tropeano qui est né à Milan. Il est en 55, donc Le Corbusier allait vivre encore 10 ans. Mais Le Corbusier ne savait pas que Tropeano était en train de naître à Milan. Ça lui a fait une fin de vie relativement confortable. Et il a été diplômé à l'ETH à Zurich, où il vit et il enseigne. Il enseigne aussi à Mendrisio, je crois. Hein, à Mendrisio, qui est une école d'architecture que Mario Botta a créée dans son village natal. Il est le créateur, il y a longtemps, il y a presque 20 ans, 91, plus de 20 ans, de la section suisse de Doko Momo. Doko Momo, c'est un acronyme un peu étrange, mais qui veut dire le mouvement pour la documentation et la conservation des œuvres du mouvement moderne d'architecture. C'est un mouvement international très puissant, maintenant très structuré dans la plupart des pays européens et dans d'autres pays du monde, et qui vise à la fois à accumuler une connaissance sur ce qu'on appelle le mouvement moderne, mais aussi à accumuler des connaissances qui permettent de transformer. Ces bâtiments ont vieilli, ces bâtiments posent des problèmes très spécifiques par rapport aux bâtiments classiques. Sentez bien qu'un bâtiment, une très légère ossature métallique, par exemple, pose des problèmes de restauration. Donc il est, en Suisse, le créateur de ce mouvement, qui est un mouvement qui est plusieurs centaines de personnes, peut-être maintenant,
j'espère,
hein, oui. qui sont pour partie des historiens, pour partie des architectes professionnels. Lui est un architecte qui a beaucoup travaillé dans la restauration d'édifices modernes, notamment les maisons en bande de Max Ernst Effeli, à la Wasserwerkstrasse de Zurich, je ne sais pas si vous les connaissez, ce sont des bâtiments de 28. Donc des bâtiments fort anciens, puisque le mouvement moderne, en gros, commence à se déployer vers 1920, disons. La Kunstgewerbeschule, l'école des arts appliqués de Engeder et Steger. La restauration du Bauhaus de Walter Gropius à Dessau, quelque chose d'extrêmement connu, etc., etc. Et tout récemment, il est parmi ceux qui ont restauré une icône absolue, un des plus beaux bâtiments de l'histoire d'architecture moderne, qui est la fameuse villa dite Tugendhat à Brno, en Tchéquie, qui est une œuvre de Mies van der Rohe. Donc il a une sensibilité assez particulière à ces questions. Emmanuel Combarel, qui est ici, est un architecte qui est associé à Dominique Marek, qui est sa compagne associée, qui est ici à gauche, mais c'est lui qui va parler aujourd'hui. Il est bien sûr de génération plus jeune, il est né en 1961, Corbusier n'avait plus que 4 ans à vivre. Et, et c'est un, lui, il représente, dans les affrontements qui ont été très forts en France dans les années 80, entre ce qu'on appelait les Corbusiens, dont le chef, le pape, était un certain Henri Sérin, un chef d'origine péruvienne, il y avait face à ce, il y avait en gros trois pôles. Il y avait un pôle qu'on disait postmoderne, qui faisait de l'architecture historiciste, qui aimait les colonnes, les significations classiques, etc. Un pôle néo-corbusien ou néo-moderne, et un pôle un peu différent, très différent, qui était dont la plus grande figure est Jean Nouvel, et qui était un pôle qui se préoccupait beaucoup de contemporanéité, de choses de signification très moderne et d'esthétique très moderne. Pas du tout revisitant le modernisme des années 20 ou 30, ce que faisaient les néo-modernes. Donc ce pôle autour de Jean Nouvel, il a été un des piliers, puisqu'il a lui-même été collaborateur de Jean Nouvel, travaillant à deux des réalisations les plus intéressantes de Nouvel, une qui est magnifique, qui est un hôtel à Bouliac, près de Bordeaux, qui affecte la forme d'une sorte de grange drapée dans une sorte de voilette de métal rouillé. C'est un très très beau, très poétique bâtiment. Et puis un bâtiment de logement, plus controversé, mais très intéressant, à Beson, qui était une très grande cour rouge, d'immeubles à coursives, en tôle rouge, ouverte vers un stade préexistant, qui est un bâtiment très fort. Ensuite, ils ont tous les deux construit pas mal, enfin pas énormément à leur avis, mais ils ont quand même pas mal construit, notamment quelques immeubles de logement, un centre qui a été très célèbre, si vous êtes architecte, si vous regardez la rue, vous connaissez peut-être un centre pour les autobus, dans la banlieue sud de Paris, ça s'appelle Thiers. C'est un bâtiment, c'est un objet au volume extrêmement curvilinéaire, dans lequel le sol, les parois verticales, et ce qu'on voit du toit, c'est-à-dire la rive du toit, sont courbes et frappées d'une espèce de ponctuation de points, un peu comme c'est peut-être les anciens caoutchoucs de sol Pirelli, qui étaient très beaux dans les années 60. Et puis tout récemment, livré, je ne l'ai pas encore vu, puis ça a été livré, je crois, ces jours-ci, une crèche à Paris, dans un arrondissement périphérique de Paris, qui est un bâtiment dans des grands murs blancs, en béton armé, peint en blanc, qui ondule, qui ondoie, puis à l'intérieur, niché secrètement à l'intérieur, une sorte de jardin, un peu tourbillonnant, enfin je ne l'ai pas visité, une sorte de promenade architecturale plantée, dont ils espèrent, en tout cas cette figure sur le dessin, que ces plantations débordent sur la chaussée. Et puis à côté Cornu, Vincent Cornu, qui est un architecte qui porte donc le même nom que les derniers propriétaires de cette maison, et qui est né, Vincent, excuse-moi, je n'ai pas fait ton anniversaire en tête exactement, 54. Tu m'en excuseras, c'est en 1954. Lui, il vient plutôt d'un courant un peu corbusien à l'origine, parce qu'il a été l'élève et le collaborateur d'un chef que vous ne connaissez peut-être pas, qui était un des plus magnifiques architectes des années 60 et 70 en France, qui s'appelait Roland Simounet. Roland Simounet est très directement corbusien, parce que c'est un Algérois qui a été formé dans la proximité, notamment d'un Jeanneret, donc d'un Emery. Il y avait Alger Emery, qui était de la Chaux-de-Fonds, et qui a implanté Alger dans le milieu des architectes français. Les pieds noirs, surtout, uniquement, on pourrait dire, d'Alger, les doctrines corbusiennes. Alger a été un des pôles principaux du corbusianisme dans l'après-guerre. Donc il y avait ce Emery, ce nombre d'autres gens, et Simounet. Et Simounet, vous le connaissez peut-être pour son travail très précieux et très, très précis de restauration du musée Picasso à Paris. Mais il a fait d'autres musées, un musée à Lille, à Villeneuve-d'Ascq, un musée moderne, un très très beau musée que j'aime beaucoup, qui est le musée de préhistoire à Nemours, au sud de Paris, et puis c'est aussi l'auteur de beaucoup de logements. Alors Cornu a donc un petit peu en lui ces gènes-là. Cornu est un homme qui fait des... Enfin, il s'en défendra peut-être. Cornu est un homme qui a fait aussi lui-même pas mal de muséographie, il a fait un petit musée en Corée, et il a fait beaucoup d'expositions dans les grands musées, au Louvre, il y a plus de 40. Une exposition de peinture, la dernière, qui ouvre récemment, est sur Raphaël, c'est au Louvre, hein, Raphaël. Donc, vous voyez, un homme qui tient cette dimension-là. Et par ailleurs, c'est un architecte qui n'a pas fait beaucoup de monuments, mais qui a fait beaucoup de logements, beaucoup d'équipements publics, avec une très grande souci plastique, formel, et un très grand souci aussi du mode de vie et des usages intérieurs des espaces, qui sont très, très intéressants et très riches, pour autant que le permettent les financements du logement ou de ce genre d'activité. Par exemple, il travaille récemment à réhabiliter le quartier le plus dur de la région parisienne, qui est le quartier de Clichy-Montfermeil, au milieu de beaucoup d'émeutes très célèbres dans les années récentes, et qu'il réhabilite pour faire du logement social contemporain. Pardon,
être musclé.
Oui, mais c'est dangereux. C'est dangereux, c'est que la voiture a été attaquée quelques fois. Il faut aller très tôt sur le chantier, quand les mecs dorment encore. Rodolphe Luchère, lui, a commencé comme dessinateur, puis il a travaillé comme architecte à Oslo. Le diplôme a été passé là-bas ?
Je n'ai pas de diplôme.
Il n'a pas de diplôme.
Comme le Corbusier.
Comme le Corbusier n'a pas de diplôme.
Mais pas à confondre. Hein.
Et il est devenu architecte, en tout cas en rentrant sans diplôme d'Oslo. Et il a travaillé à la construction de l'Université de Lausanne. Il avait d'abord travaillé à l'exposition 64, l'exposition nationale suisse. Il ouvre son agence en 70. Et il a été aussi une sorte de critique, puisqu'il a travaillé beaucoup à Baum & Gone et à Werk, de revue suisse célèbre d'architecture. Il s'intéresse beaucoup à la jeune architecture, puisqu'il est le créateur, en tout cas l'animateur en Suisse longtemps de Europan. Europan est un concours annuel pour aider des jeunes architectes à développer des projets sur de nouvelles thématiques. Et c'était une initiative française d'origine, puis il y a eu diverses sections de la Suisse, et maintenant il est l'un des animateurs de la section européenne d'Europan, donc c'est un garçon qui connaît extrêmement bien ce qui se fait en architecture dans l'Europe. Bon, il a beaucoup construit, je ne vais pas énumérer ses œuvres. Tout récemment, une gare de chemin de fer, une gare de vous appelez ça RER aussi, je crois.
RER, oui.
Une gare de RER qui est assez célèbre et assez frappante, parce qu'il y a sur un talus, sur un remblai de chemin de fer, il y a un toit qui descend comme ça, avec un grand pli de la toiture qui descend tout au sol, qui est une œuvre très volontaire. C'est un homme qui s'intéresse à la participation, à l'évolution, qui n'aime pas l'architecture trop figée, et que le journal L'Hebdo dit être l'enfant terrible de l'architecture suisse.
Il y a longtemps.
Oui, 94.
Ça s'est calmé.
Oui. Massif et coffré comme un brasseur irlandais, il a une tête, il a une tronche, dit le journaliste. Il a des coquetteries d'artiste, un chapeau à la Joseph Beuys qui promène partout, hein, il est en bas le chapeau. Il n'a pas osé entrer. Et une éclatante décapotable intérieur cuir. Hein. Mais elle doit être couverte aujourd'hui. Voilà, donc on va commencer. J'ai préparé un certain nombre de comme ça, ce sera un peu sur le mode de, je dirais pas du gag, mais de la conversation sympathique qu'on va faire ça. Je veux demander, quand vous avez rencontré le Corbusier, aucun d'entre vous ne l'a rencontré, même vous, Rodolphe.
Dans la tête, oui, mais pas en personne.
Alors, je vais vous montrer comme un de ses principaux amis l'a rencontré en 1920. Il dit ceci. « Je vis venir à moi, très raide, un extraordinaire objet mobile, tout en ombre chinoise, surmonté d'un chapeau melon avec des lunettes et un par-dessus de clergyman. L'objet avançait lentement à bicyclette, obéissant strictement aux lois de la perspective. » Ça, c'est aux enfants qui racontent comment il a vu. La première vue, cet objet étrange qui avançait lentement à bicyclette. Vous les rencontrez comment ? Dans vos têtes, les uns et les autres.
Oui.
L'enfant terrible, peut-être ?
L'enfant terrible, d'abord, bon, ça s'est fait. Alors, d'abord, merci de m'avoir invité dans la clique des quatre, hein, on a dit ça. C'est extraordinaire de mélanger deux Suisses avec deux Français. C'est bien, le Corbusier. Et ouais, c'est une longue histoire, moi, le Corbusier, du fait que je n'ai pas fait de diplôme, j'ai fait l'école normale. Je suis déjà sorti à, j'avais même pas 15 ans, parce qu'on m'a mis à l'école, j'avais pas 6 ans. Et je suis zurichois d'origine. Et j'étais toujours attiré par le dessin. Et vous savez, la ville de Zurich est très intéressante au niveau de son paysage peinture, parce qu'il y a toujours ces terrasses sur les toits. Alors, comme on habitait le rez-de-chaussée, j'étais souvent à me retrouver sur le toit. Et je dessinais la ville avec un crayon, de ces choses-là. Et ensuite, j'ai eu la chance de faire un apprentissage comme dessinateur. Dans le temps, ça durait 3 ans, c'était pas long, mais c'était dur. Et j'allais à l'école, évidemment, professionnelle, et puis à Zurich, à côté de l'école professionnelle, il y a aussi la Kunstschule, juste à côté. Et puis, comme j'étais très pris par le dessin, j'ai commencé à prendre parallèlement des cours de dessin et autres. Et par hasard, l'architecte qui m'avait employé était un très bon dessinateur, parce qu'en cherchant un peu dans les archives, j'ai trouvé des dessins extraordinaires qu'il avait faits. Et en plus, il était préoccupé avec une maison à côté de Zurich, Schlieren, et puis il m'a mis à dessiner des logements. Je n'ai jamais rien compris comment ça fonctionne, parce qu'il était corbusien quand même, dans l'esprit. Et puis il a fait une maison, une sorte de maison haute et longue, qui est toujours très visible. Système Corbusier, ça veut dire qu'il y avait un corridor au milieu, quelque part, et puis ceux qui entraient parallèlement, à côte, se retrouvaient à 4 étages différents sur une façade, et puis quasiment un étage de différence sur l'autre, c'était traversant. Donc c'était inspiré par le Corbusier. Rembrandt, Le Corbusier me dit c'est pas grand-chose encore, évidemment. J'étais plutôt admiré par les peintres, Mondrian et autres, où j'ai découpé des images dans les journaux, puis mis dans les cadres que j'avais à la maison. Alors, et assez, on vient du départ. Ensuite, dans l'apprentissage, j'avais 16 ans et demi, tout d'un coup, le patron rentrait au bureau, on était dans une maison dans Galta, et puis il disait, venez à la fenêtre. Bon, on n'était que trois personnes, moi, l'apprenti, et puis deux dessinateurs, et puis lui, il arrivait devant la fenêtre, et puis on a vu une tache verte, et puis il dit, ça c'est à moi. Et qu'est-ce qu'il y avait en bas? Il y avait un citron idé avec la couleur verte pomme. On a dit, c'est pas possible, vous êtes pas assez combattu. C'était extraordinaire. Je crois qu'il avait acheté la première qui était importée en Suisse. Il a dit, écoutez, on va faire comme ça, le week-end prochain, on va faire une sortie avec cette voiture. Ah bon? Comme on était cinq, alors j'étais assis derrière, mais j'étais le plus mince. Ça a beaucoup changé, voyez-vous. Alors on prend du coffre quand on est terrible. Hein, alors on était assis, j'étais assis derrière au milieu, et puis il roulait avec cette idée, vous savez, le volant qui venait comme ça. Puis voilà, c'était encore la main, cette idée. Le DS est venu plus tard. Puis il a dit, regardez-moi ce qu'on peut faire avec cette voiture. Et en France, il y avait déjà des ronds-points, mais ce n'était pas des ronds-points comme aujourd'hui, il y avait juste un tas de sable. Il a passé au milieu, j'imagine. Et c'est vrai, la suspension de cette idée était extraordinaire, parce qu'on sentait quasiment rien, zup, il est passé. Je dis, mais c'est pas possible, il est fou, mon chef est fou. Puis il ne nous disait pas où il allait, mais on était côté France. Puis on allait où? On allait voir l'église de Ronchamp. Alors pour moi, c'était le top. D'avoir l'idée. Donc, un perdant de citron.
Ça ressemble un peu à quelque chose.
Non, mais peu importe.
Ça ressemble à des coquilles de crabe tous les deux.
C'est pas mieux. Et je fais un saut parce que je ne vais pas prendre la parole trop longtemps, mais vous avez dit que ça saute un peu du coq à l'âne. Alors, moi, je fais le coq et puis je ne sais pas qui est là. Alors, oui, c'est ça. Alors, quand j'avais un grand projet à faire, que je raconte après, je l'ai ici, juste pour peut-être me rappeler un peu parce qu'il y a longtemps, je me suis rappelé. Parce que j'ai reçu aussi de mon patron un livre, un des premiers livres sur Corbusier. Bon, alors là, il y avait là-dedans une image d'une voiture vue de devant. Puis il dit, si on construisait des maisons comme les châssis de voiture, il connaissait l'histoire. Hein? Alors voilà, le projet était fait. L'idée, Ronchamp, ça veut dire la technologie, d'accord, avec un châssis extraordinaire, parce qu'il flottait quasiment un avion. Ensuite, la forme, l'ambiance, l'architecture proprement dite. Et puis, évidemment, c'est le projet que j'avais fait, c'est-à-dire JVC, je raconte ça peut-être après, je me suis basé là-dessus, et puis ainsi de suite, fur et à mesure, avec d'autres découvertes. Le Corbusier est entré d'abord dans la tête, et ensuite un peu dans mes voyages.
Donc, cette première découverte, c'est un Corbusier aux lignes comme ça, souples, courbes, sensualistes, mais avec la texture rêche des murs quand même.
Oui. Mais il y avait quand même, dans la même notion, dans le même temps, il parlait de la voiture et de châssis, c'était un peu une contradiction. Ça veut dire qu'il a quand même sauté...
C'est pas dans le même temps, parce que le texte...
C'est pas dans le même temps.
1923,
oui, j'entends, il a quand même... Oui, 1920, il a dit l'un, puis après il a fait l'autre. Ça veut dire qu'il a aussi... Il fallait découvrir en arrière, après, pour retrouver le châssis, au fond, le domino et ainsi de suite.
Qui veut faire l'âne?
Moi, je veux bien faire l'âne.
Encore mieux.
Ça me va. En fait, ça me rappelle une histoire, mais je reviendrai sur cette histoire de là. Mais sur la découverte de Le Corbusier, c'est comme on pourrait dire un grand morceau, pas de gruyère, parce qu'il n'y a pas de trou dans le gruyère, mais des mentales, par exemple, avec plein d'entrées différentes. Je pense que Le Corbusier, donc, moi je l'ai découvert à travers, évidemment, ces bâtiments. Je me rappelle, une des premières visites, c'était le Carpenter Center. Je ne suis pas allé voir... Quand j'étais étudiant, je ne dis pas que j'évitais, mais je n'allais pas nécessairement voir. Donc j'ai découvert d'une manière très accidentelle, comme je découvre aujourd'hui, enfin hier plus exactement, la Maison Blanche. Et j'ai découvert comme ça plusieurs bâtiments. J'ai évidemment découvert aussi à travers ces textes, et ça aussi c'est un sujet à part entière, à travers la fréquentation de ces textes, et ça aussi, je pense que dans ces textes, on retrouve la même diversité que dans son architecture, c'est-à-dire des textes qui sont très différents les uns des autres. Et puis aussi, à travers le reflet qui est transmis par des personnes qui ont connu le Corbusier, en l'occurrence, effectivement, Simonet. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'était qu'il appliquait les doctrines de Le Corbusier? Je ne crois pas. parce qu'il n'était pas
d'ordinaire. Il avait fait jeune, il l'avait fait. Son diplôme, où, tu sais, il avait fait un rapport pour le congrès de 1953 d'Aix-en-Provence.
Mais c'est
Le Corbusier. Hein.
C'est la partie peut-être de Le Corbusier qui n'est pas doctrinaire. Je pense que lui, pour lui, Le Corbusier, c'était pas un style, c'était pas des éléments à réutiliser, c'était une manière de penser. Il aimait bien d'ailleurs cette expression, manière de penser. Donc il était lui-même très distant par rapport à cette. Qui commençait enfin, à apparaître, qui avait déjà cette réutilisation du vocabulaire, de la syntaxe corbusienne. Enfin, Simenet était très distant par rapport à ça. Et ce qui l'intéressait, c'était plutôt ça, c'est la manière de penser. Alors, sur un plan pratique, comme dirait l'autre, Simenet est quelqu'un qui utilisait le modulor. Le modulor, alors, le modulor, enfin, vous connaissez sans doute tout, mais on pourrait dire que c'est une forme de rythmique, c'est une règle dissymétrique. C'est-à-dire, c'est. Alors que là, en musique, la règle, ça pourrait être ça, et le modulor, c'est. C'est-à-dire, c'est une manière d'être, d'entendre, c'est quelque chose d'extrêmement vivant, je pense, et musical. Comme... Alors, j'en viens à l'histoire d'Anne, parce qu'à un moment, il y a parmi les textes, moi, que j'aime beaucoup, il y a le texte qu'il a écrit un mois avant sa mort, enfin, en juillet 1965, et qui est un texte absolument extraordinaire. Et à un moment, il dit le modulor, mais je m'en fous du modulor. Qu'est-ce que vous voulez que ça me fiche, le modulor ? Le modulor rallonge l'oreille aux ânes. Et le modulor rallonge l'oreille aux ânes.
Il tient de rester à proposer.
Donc, en fait, il est conscient du fait que le modulor, à cette époque, c'est devenu un peu une règle que des gens appliquent. Et comme toutes les règles qu'on applique un peu bêtement ou automatiquement, disons, ça n'a pas d'intérêt. Et puis après, il revient sur l'âne et il dit « je suis un âne ». Mais je suis un âne qui a l'œil. Et il ne s'agit pas de l'âne précité il y a trois lignes, celui auquel le modulor a rallongé les oreilles. Et il s'agit d'un âne qui a l'œil et il parle de la vision. Il dit je suis un visuel impénitent. Et voilà, donc il y a ce côté que je trouve très intéressant chez Le Corbusier, du bestiaire, de la présence des animaux. D'ailleurs, dans les maisons, il y a des tas de petits animaux, il y a des tas de... Et lui-même se voit comme souvent il se décrit comme une espèce de cheval de trait, comme quelqu'un qui tire, qui pousse, qui... Enfin, il n'arrête pas de dessiner quand il va en Inde, partout, il dessine toujours les petits animaux, les chats, les chiens, voilà, on le voit. Voilà, j'ai dérivé un petit peu de jusqu'à cette histoire d'âme, et je ne vais pas monopoliser plus longtemps.
Ruggiero ou Emmanuel, cette première prise de contact, cette première premier souvenir.
En fait, Le Corbusier, c'est imposé à moi. J'ai toujours voulu être architecte. C'est arrivé très très tôt. On m'a demandé qu'est-ce que je voulais faire comme métier, évidemment, comme à tous les enfants. Et je trouvais que architecte, ça sonnait très bien. Donc, c'est la sonorité du mot qui m'a amené à l'architecture. À 4 ans, je trouvais que c'était une réponse merveilleuse. Je ne savais pas ce que c'était être architecte, mais la sonorité m'a plu. Et donc, j'étais architecte. Voilà. Je voulais être architecte. Et finalement, ça s'est fait un peu avec le temps. Et il se trouve qu'en France, Le Corbusier, c'est le seul architecte qui est connu par tout le monde. Donc tout le monde, quand on parlait d'architecture, tout le monde m'a parlé de Le Corbusier depuis que j'ai prétendu m'intéresser à l'architecture. Donc Le Corbusier s'est imposé à moi. Bon, après les études, j'ai commencé aussi par Le Corbusier, ses écrits, des études sur ses travaux. Et puis, effectivement, après...
À l'école.
Bon,
donc, enseigné par des profs.
Enseignement de Le Corbusier, qui était quand même une figure tutélaire. Et puis après, prise de distance avec des travaux, avec des architectes, notamment Jean Nouvel, qui étaient un peu éloignés. Peut-être, ouais. Moi, je trouve beaucoup de filiation, finalement, à la relecture des œuvres de Le Corbusier. Je trouve qu'il y a beaucoup de filiation, et peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. Et donc, finalement, peut-être moins proche sur un certain nombre de raccourcis immédiats, peut-être beaucoup de filiation sur les ouvertures qu'a fait Le Corbusier.
Une des choses qui rapproche beaucoup Jean Nouvel de Corbusier, c'est que Jean Nouvel, parmi les architectes contemporains, est un de ceux qui se sont construits le plus volontairement. Construit une image. Comme le Corbusier, c'est construit une entité très forte. Autre chose, c'est que le premier article de Jean Nouvel, il n'a pas fait beaucoup d'articles d'ailleurs, un de ses premiers articles, il y a une trentaine d'années, s'appelle « Vers des architectures ». Alors que le livre classique de Corbusier s'appelle « Vers une architecture ». Donc on sait bien que Nouvel, même assez jeune, voulait se confronter.
C'est vrai que ce qui est intéressant dans ce qu'a fait de Corbusier, une des choses très intéressantes, c'est l'ouverture sur d'autres champs. Donc il a ouvert des territoires pour l'architecture et il a trouvé des références où l'architecture n'était pas finalement la filiation la plus directe. Et quand Jean Nouvel dit l'architecture n'appartient plus à l'architecture, c'était finalement reprendre ce qu'avait pu faire Le Corbusier quand il était en rupture avec l'académisme et qu'il a ouvert l'architecture sur justement l'industrie, l'aviation, les voitures, les bateaux. C'est des champs très importants d'influence qui ont été repris notamment par Jean Nouvel. Mais autre chose aussi, c'est ce qui me semble très important dans le travail de Le Corbusier, c'est cette ouverture sur la programmation. Tout d'un coup, Le Corbusier s'est saisi de la programmation. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'architecture sans repenser l'idée même du programme. On peut le voir à travers l'ensemble de ses œuvres, notamment la Cité radieuse. Et c'est des choses qui sont très importantes aussi dans le travail de Jean Nouvel, qui pense que, qui a à chaque fois voulu repenser la manière dont pouvait être définie la question pour pouvoir apporter une réponse singulière. Donc là aussi, il y a beaucoup de connivence entre les deux et des opérations qui sont finalement pas si éloignées. Toute proportion gardée entre la Cité radieuse ou ce qu'a voulu faire Jean Nouvel sur les Mosus ou sur Beson sont
parfois. Des opérations de logement.
Oui, sont des opérations de logement.
Ruggiero.
Oui, je viens de l'Italie, à Zurich. C'est 1974. Bernard Hussley, la première rencontre, ancien collaborateur de Corbusier. On ne savait pas encore, mais là, la première manière de voir quelqu'un qui travaille avec des formes, des couleurs, comme ça. Moi, j'arrive, j'ai une Big Crystal. J'espère qu'on s'est connu.
C'est une Big Crystal.
Big Crystal, et j'ai dessiné les premières lignes avec la Big Crystal et avec une, comment dire, les linéales en bois que j'avais, comme ça. Et l'esprit m'a dit, j'ai comme ça. Et c'est opérant. Bah, il faut travailler sur là. Alors, j'avais tout à côté de moi un copain, Pascal, fils de architecte en chef des monuments historiques à Rennes. Il dit, bon, on va faire une practice à Rennes. Et alors, je pars et j'arrive à Rennes. Bretagne, pas de Corbusier, mais oui, je rencontre l'architecture française. Des anciens collaborateurs de Corbusier, il y avait partout. Premier travail fait des relevés sur des châteaux du 16e, 17e à Angers. Après les retours, on m'a dit il faut aller chez Vincent Fréal. Vincent Fréal, la librairie, et là-bas acheter les livres de Corbusier. Et ça, j'ai commencé à voir vers une architecture. Et c'était la première rencontre. Rencontre première de l'espace Corbusier, ici, à La Chaux-de-Fonds. On vient avec Arthur Rueck, qui était assistant à l'école polytechnique de Dolchnibli. On fait un travail de semestre ici, et on va visiter la Maison Turque. Maison Turque, on entre, c'était magnifique ici. La Chaux-de-Fonds, c'était un peu comme ça, c'était décembre, je crois qu'elle neigeait déjà. On entre là-bas et j'ai parlé avec un ami à moi en italien. La dame qui nous a fait entrer, elle commence à parler italien. C'est là-bas que j'ai rencontré pour la première fois les Corbusier, mais j'ai rencontré aussi quelque chose d'italien, Angelo Mangiarotti, parce que la maison turque était rénové par Angelo Mangiarotti. Il m'a expliqué tout, qu'est-ce qu'il a fait Angelo Mangiarotti, et pas qu'est-ce qu'il a fait Le Corbusier. Ça, c'était mon premier rencontre italien, Le Corbusier, et aussi cette idée de voir comme les choses changent, et comme toujours, il y a des architectes fameux qui se rencontrent avec des autres architectes fameux, mais peut-être pas toutefois en personne, mais avec ses œuvres. C'est bon. Il n'y a pas de hasard. Ouais. Regarde ce que j'ai comme montre. C'est fou, ça. Ah. D'abord, je tape bien avec l'âne. Et puis maintenant, il y a encore le Mancherotti que j'ai autour. Oui. C'est pas mal. Ça commence bien.
Mancherotti, c'est vraiment
génial. Donc, j'ai la chance que dans la famille, il y a une usine de Mancherotti. Mon frère, tout ah, aussi, une aussi, petite usine à Monza de Mancherotti. C'est magnifique.
Mancherotti est un designer et architecte italien qui a notamment inventé un système de préfabrication de très très beau, qui faisait même la couverture de revues d'architecture. Plusieurs revues ont fait leur couverture. C'est un système qui était assez simple, fait de poteaux et de grands bacs armés en forme de U. Donc, un objet très industriel, mais très célèbre dans les années 70 à peu près. Par ailleurs, il avait la chance d'habiter une des plus belles maisons de Vicence, ouais. Puisqu'il habitait la villa Valbarana à Inani, qui est la villa voisine de la Rotonde. Ouais. Il était d'ailleurs où habitait aussi Scarpa. Donc, c'est un personnage assez curieux, ce Mangiarotti, qui était sur plusieurs tableaux. Quoi, hein,
et il y avait des pièces de Mangiarotti ici.
Hein. Oui. Il fait beaucoup de design maintenant. Oui.
Alors, voilà, on va passer à quelques thèmes corbusiens pour voir. Quels échos il réveille.
Pas. Juste encore, si je peux.
Enfant terrible.
Des petites bêtes que Le Corbusier avait dessinées. Oui. Une petite anecdote, quand je suis allé visiter le grand bâtiment à Marseille, vous voyez lequel, la machine là. Et une dame avec son chien, ah, vous êtes intéressé, et puis j'ai pu rentrer, et puis elle m'a amené chez elle. Alors, elle est rentrée, comme je vous dis, et puis elle monte à un demi-étage. Puis là-haut, il y a une petite cuisine, comme ça, à l'entrée à gauche. Et puis après, on va dans le grand espace, double étage. Et puis, comme elle était vieille, comme ça, elle a dit, écoutez, vous pouvez descendre, si vous voulez. Puis avant de descendre, je vois une boîte en carton sa table de cuisine. Une boîte en carton, qui avait une fente au milieu. Et puis, je me dis, mais qu'est-ce que c'est ça? Puis, il y avait des dessins noirs autour. Et puis c'était un attrapage de petites bêtes noires qu'on a dans les maisons. Et j'ai dit, mais attendez, il se passe quoi là? Ouais, mais vous savez, c'est invivable ici, hein, on ne peut pas vivre. Il faut, je change ça deux fois par semaine, cette boîte. Et puis elle est pleine. Des cafards, donc, hein, des cafards qui étaient attrapés. J'ai dit, mais attendez, madame, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Et puis elle m'a expliqué, parce que la maison est faite avec un nouveau système de chauffage à air. Ça veut dire que l'air chaud est monté dans un doublage de mur, et puis après, c'était réparti dans tous les appartements. Et les cafards, un jour, ils ont découvert qu'il fait bien chaud là-dedans, c'est agréable à y vivre, vous voyez, ça c'est quand même intéressant. Et puis après, ils avaient toute une peine bleue, d'ailleurs, pour assainir cette maison, ben, maintenant ça marche de nouveau. Mais juste pour dire, il faut faire attention quand on dessine trop de bêtes dans les... Voilà, juste une petite anecdote.
Ah, j'ai pas prévu de conversation sur les bêtes, mais on peut la voir. J'avais en revanche prévu, par exemple, parmi les sujets, les volumes. Qu'est-ce que c'est qu'un volume? Le Corbusier, on connaît la formule très célèbre de 1923 dans Vers une architecture. L'architecture est le jeu savant, correct et magnifique des volumes assemblés sous la lumière. Nos yeux sont faits pour voir les formes sous la lumière. Les ombres et les clairs révèlent les formes. Les cubes, les cônes, les sphères, les cylindres ou les pyramides sont les grandes formes primaires que la lumière révèle bien, etc., etc. Qu'est-ce que vous dit aujourd'hui cette phrase, 90 ans après? Pensez-vous que l'architecture soit l'assemblage des formes sous la lumière? Emmanuel.
Pour moi, je retiendrai de Corbusier que c'est un esprit libre, et qu'il a fait toute forme de volume, et que finalement, ce qui est intéressant, c'est qu'il a... On parlait de sa doctrine, il a constamment échappé à sa doctrine. Il a ouvert de nouveaux champs. On pense évidemment au béton, qu'on pense à Le Corbusier, mais il a utilisé tant d'autres matériaux. Je pense à la Villa Clarté, notamment, qui est de métal et de verre. Donc c'est vraiment un architecte inclassable.
Oui, mais pas simultanément, ça a plutôt été des phases.
Oui, c'était des phases, mais il a, par rapport à ce qu'on peut. L'image commune de la modernité, il y a toujours échappé. Et c'était un esprit libre. Moi, pour ma part, je suis plutôt un enfant du champ, c'est en matière d'art. Et je pense que toutes les formes sont belles, quel que soit leur éclairage. Enfin, plutôt, c'est peut-être l'éclairage qui fait la forme et qui donne à la forme ses qualités. Je ne me pose pas trop de questions par rapport à la forme. Je pense que Le Corbusier est beaucoup plus intéressant quand on parle de spatialité que quand on parle de forme, finalement.
On y viendra, oui. Parce que... enfin, spatialité, on va y venir, parce qu'il y a parfois flou, hein, sur la spatialité.
Oui, enfin, quand j'entends volume, moi, je l'entends plus à partir de l'intérieur, parce que c'est quelqu'un qui plus que de l'extérieur, il n'arrête pas de dire que ça procède du dedans vers le dehors. Et donc, moi, j'entends le volume comme une espèce de respiration. Quand il décrit Istanbul et les bulles comme une espèce d'immense inspiration, et encore la rythmique ou l'alternance entre des espaces très petits puis des espaces très grands, voilà. Et cette maison d'ailleurs, elle est enfin dans sa respiration, dans ses rapports, il y a entre l'entrée, entre la, je pense que cette notion de volume et de respiration, pour moi, je l'entends plutôt de l'intérieur. Après, ça exprime, évidemment, ça s'exprime à l'extérieur, ça s'exprime. Et je pense que de ce point de vue-là, effectivement, il n'a aucun... Il laisse venir, et après, évidemment, il travaille dessus, mais il n'est pas enfermé dans...
Oui, je suis d'accord avec le contenant de la lumière que tu expliques. Mais la lumière est quand même extraordinaire comme il la traite. D'abord, il appelle la maison clarté. Quand on y entre dedans, on a compris pourquoi c'est appelé comme ça. C'est imbibé de lumière. Ce qui m'a marqué personnellement très profondément, pas en copiant les matériaux ou ces choses-là, mais peut-être je peux faire un bâtiment où l'escalier, l'arrivée vers l'habitat peut avoir un espace lumineux, un espace où je peux traiter la lumière. Je choisis ça au lieu de mettre l'escalier au centre. Ce n'est pas toujours possible pour les tours, ce n'est pas possible. Ça veut dire que ça fait partie déjà d'être accueilli vers un intérieur qui est lumineux, qui n'est pas quelque chose qui est sombre et puis au fond qui... On va pardonner les intestins pour nourrir son corps, on est d'accord. Alors ça, moi je trouve quand même incroyable le ronchant, la façon comme il fait ses petites chapelles, les trous de pointe avec des couleurs et des figurines dans la grande façade. C'est extraordinaire. Si l'hôpital qu'il a dessiné, malheureusement pas construit à Venise, toujours sur une modernité dans un tissu historique, mais qui maintient quand même la caractéristique du plein et du vide, de manière un peu différente, mais où il monte le malade vers la lumière, ça veut dire qu'il n'y a pas de fenêtre, hein, on est bien d'accord, dans ce projet-là, il y a la fenêtre zénitale, la lumière au fond guérit les gens et les autres, et il est très très poétique dans tout ce qui concerne la lumière, ou bien dans les coffrages, quand il met ses symboles, ses figurines, ses lettres et tout, c'est avec le rayonnement de soleil, et ça, tout d'un coup, le béton, que tout le monde a pas le froid, j'ai jamais compris pourquoi, parce que sous le soleil, il devient chaud, celui-là, plus que le bois, d'ailleurs. Bon, alors, il joue avec la lumière, qui font des traces, et qui font tout d'un coup une profondeur d'un parois lisse, par exemple. Je le trouve extrêmement intéressant, presque plus sur la lumière que sur la forme.
Audio. Pour moi, bon, Marseille, unité, ça c'est pour moi une expérience extraordinaire. J'ai eu la chance de vivre dans l'unité quelques semaines, dans les années 83, et puis il y a quelques années. Et là-bas, Trois Terrasses, naturellement, ce jeu magnifique. Une autre chose, nous on avait fait des relevés justement à l'intérieur de cette unité dans les années 83, 84. Et là-bas, découvrir qu'est-ce que c'est pour les Corbusiers, comment ça s'appelle, les moulages, les profils, non, il y a un tout les murs, et tout ça.
Les coffrages.
C'est tous les profils qu'il y a à l'intérieur. Dans cette cellule, il y a vraiment un dessin très clair de chaque profil. Si vous voyez un mur, les murs, il est partagé avec une couvre jointe. Oui. Toutes les choses là, et regardez tous ces jeux avec cette structure dessinée à l'intérieur. Et l'autre chose, si on parle des couleurs, découvrir qu'il a peint les cellules qui regardent vers l'ouest dans une couleur, les cellules qui regardent à l'autre côté dans une autre couleur, parce qu'il regardait toujours que le soleil va à toucher une partie jaune si elle est matin, une partie rouge si elle est soir. Ça sont tous des choses, des petits jeux, je dirais, des jeux de bonsaï. Très petits.
Emmanuel, il faut être précis. Que l'histoire de l'escalier, tous les architectes essaient de faire des escaliers éclairés par la lumière naturelle. Donc ce n'est pas un vocabulaire qui est propre à Le Corbusier, même si il est très attentif à la lumière générale. Effectivement, dans la cité radieuse, il y a beaucoup de choses qui ont attrait à la lumière, à la spatialité. Déjà, dans l'histoire de la rue, cette histoire de circulation partagée, surdimensionnée, qui est un espace donc, ouvert, un espace d'échange. Et
extrêmement... Aujourd'hui, c'est une sorte de couloir intérieur qui est
extrêmement intéressant. Là, tout d'un coup, tout à l'heure, je parlais de notion de programmation, il touche à l'idée même de ce que peut être le vivre ensemble et comment on doit vivre ensemble. Et donc, il donne à ces concepts une vraie spatialité. L'autre chose extrêmement intéressante, c'est l'idée du duplex. C'est quand même Le Corbusier qui invente le duplex en logement. C'est quand même Le Corbusier qui s'intéresse au logement social en disant « le logement social va être, ou en tout cas, le logement bon marché, le logement courant, le logement commun, ça va être ce qui va constituer la ville et c'est les architectes vont devoir s'y intéresser. » Et là, il y a une rupture avec l'académisme, puisque les architectes faisaient des gares, faisaient des palais, faisaient des musées, etc. Et Le Corbusier s'intéresse au plus trivial de la partie.
Le Corbusier écrivait, les architectes ont des boudoirs pourris.
Des boudoirs pourris. Et lui, il s'intéresse au logement et lui donne une dignité. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il prend la figure du logement de l'artiste et il en fait un habitat populaire. Et une des choses, donc, qu'est-ce qui caractérise le logement de l'artiste? C'est la lumière, c'est ses double hauteurs. Et là, d'un coup, il donne une double hauteur avec la lumière qui va pénétrer profondément dans le logement. Donc là, il y a une vraie réflexion extrêmement intéressante sur l'espace, plus que le volume, et la qualité lumineuse qui est donnée dans le logement courant pour le peuple.
Tu as fait quelques projets de logement, tu en as même plusieurs qui n'ont pas été construits récemment, qui se voulaient un petit peu en dehors des normes. Les normes sont très prégnantes dans le logement,
oui,
en général, en France en tout cas. Et tu penses qu'on peut poursuivre encore un peu ce genre de recherche?
On est dans un blocage certain, puisque la programmation a échappé aux architectes. Et on est rentré dans un processus extrêmement normatif. Et finalement, l'addition des contingences font que le logement n'appartient plus aux architectes dans leur aménagement intérieur ou sur rares exceptions. Donc on est dans un vrai problème sur les logements. Tous les logements se ressemblent. Toutes les chambres font exactement la même taille, etc. Donc on est dans la standardisation sans intérêt. C'est intéressant qu'on se replonge dans le modulor de tout le processus intellectuel qui a amené Le Corbusier à décortiquer finalement les systèmes constructifs pour recomposer avec. Nous, on est arrivé à une normalisation extrême, mais qui met en place des stéréotypes et qui ne permettent pas de faire des innovations, des avancées. Donc actuellement, c'est vrai qu'on est dans une période un peu compliquée et on doit se ressaisir de la programmation.
On est dans une période plus compliquée que Grande Nouvelle. Et donc toi, comme assistant, faisiez Beson ou l'opération de Nemosus, qui est une opération sur...
Je ne vais pas rentrer dans les techniques, mais quand on additionne... Tout à l'heure, on parlait des escaliers éclairés. Bon, il faut savoir qu'en France, c'est extrêmement compliqué pour des règles de sécurité incendie qui nous l'interdisent pratiquement. Donc, sécurité incendie extrêmement rigide, normes handicapées extrêmement rigides, mode de financement complètement stéréotypé. En plus, réglementation environnementale qui s'est vraiment durcie et un peu cristallisée et qui n'est plus un objet de débat. Tout ça fait qu'on est dans une vraie problématique sur la pensée des modes d'habiter.
Pourtant, Vincent, tu dessines des logements que tu souhaites différents, et plus généreux qu'un logement normal.
Mais tout ce que tu disais est tout à fait vrai. Il faut lutter en permanence contre un formatage. Et puis, effectivement, une maîtrise d'ouvrage qui cherche à reproduire des manières d'habiter qui sont stéréotypées. Donc c'est une... Alors là, je dirais que c'est un héritage de certains de Le Corbusier, le fait de, voilà, que c'est un métier de lutte et que c'est une espèce de figure du rebelle. Enfin, bon, il y en a d'autres. Il y a d'autres architectes outre-Atlantique qui ont incarné aussi cette figure. Mais c'est vrai que de ce point de vue-là, Le Corbusier a... c'est quelqu'un qui de tout jeune jusqu'à sa mort, va, va tenir et va se battre. Et bon, et puis certainement beaucoup moins construire que ce qu'il aurait pu construire s'il avait accepté certaines choses. Et je pense que ça, c'est une alors, moyennant quoi, effectivement, pour construire des logements, c'est une lutte énorme pour se battre pour des petites choses.
Mais qu'est-ce que tu penses pouvoir introduire dans ton logement qui sera différent du logement plus banal, du logement social, de promotion
humaine? Déjà, se battre pour des choses très simples, ouais. Par exemple, que les logements soient traversants. Faire admettre qu'on peut... par exemple, j'ai des opérations actuellement où j'ai réussi à faire passer qu'on a des deux pièces qui sont des petits logements. En fait, la question, c'est que c'est... À un moment, c'est Mises qui dit c'est cette vie que nous vivons, et c'est ce moment que nous vivons, et c'est dans ce moment que nous intervenons. Donc, voilà. Donc, effectivement, les financements des logements, c'est ce que c'est. Après, les loyers sont indexés sur les surfaces. Donc, évidemment, on peut, si on fait des choses plus grandes, on sait aussi qu'à un moment, ce sera plus cher.
Pour des raisons réglementaires. Pas...
Donc, par exemple, un enjeu, moi, récemment, je fais un bâtiment où il y a des deux pièces traversantes, c'est-à-dire des appartements qui font 50 mètres carrés et qui sont traversants et qui ont des loggias où on peut mettre une table, parce qu'il y a encore des espaces qui échappent à la normalisation. C'est le travail d'ailleurs de l'Hackathon Vassal ou de gens comme ça qui, à un moment, essayent d'avoir une forme de générosité, parce que c'est bien joli de dire on est généreux, mais on ne peut pas être généreux avec le porte-monnaie des autres. Donc il faut trouver ces espaces de liberté, ces espaces où on peut donner des choses, et sur des points très simples. Encore une fois, l'orientation, évidemment, l'orientation, alors, il y a dans ce mot, il y a l'Orient, évidemment, c'est complètement fondamental. Dans une maison comme ça, je veux dire, on voit complètement la cour du soleil avec le... Quelqu'un disait l'autre jour, c'est quand même bizarre qu'on fasse tout ce chemin pour entrer là-bas. Moi, je trouve que c'est complètement naturel, parce que le fait d'aller chercher l'entrée au nord et d'adosser l'entrée au sapin d'ici pour revenir vers la lumière, enfin, c'est une chose absolument... c'est une promenade. C'est pas pour le plaisir de faire une promenade, mais c'est par rapport à cette course, par rapport à cette course du soleil. Il fait faire aux visiteurs la course du soleil, en quelque sorte, avant d'entrer dans la maison.
L'espace, Le Corbusier, a pris des formes fort différentes, bien sûr. Il y a une chose que me fait penser Luchet quand il évoquait cette lumière un peu sacralisante qui tombait sur les infortunés malades de Venise. Tu employais un mot comme ça, que j'ai oublié, mais sur l'espace. Et ça m'a rappelé ce que Corbusier a appelé l'espace indicible. Il ne s'est pas beaucoup exprimé sur ce qui est indicible, puisque par nature même, on ne peut rien en dire. Mais tout de même, il a bien aimé ce vocable. Il en a fait le titre d'un article dans le numéro spécial d'Archite pour lui, c'est en 1946. Il en a fait ensuite un projet de livre qu'il n'a pas mené à bien. Cet espace indicible, cet espace sacré, est-ce que c'est une valeur que des contemporains peuvent porter en eux? Ou est-ce que par son caractère un peu de mystique?
Oui,
je sais qu'on a des théoriciens suisses parlent beaucoup de ça, parce qu'ils citent toujours des articles de Freud et de Jung sur l'étrange, l'étrangeté. Donc c'est revenu en vogue un peu depuis une dizaine d'années. Mais que penser de l'indicible ou de l'inquiétante étrangeté?
Il faut juste, j'aimerais bien expliquer quelque chose. Quand on parle logement chez nous, on parle logement dans un grand bâtiment. Il ne faut pas comparer une maison particulière, oui, avec le logement dans un grand bâtiment. Évidemment, on ne peut pas faire le tour. Donc, évidemment, c'est un rêve de beaucoup de monde. Moi, je suis d'avis qu'il faut arrêter de construire des maisons particulières en Suisse. D'accord ? Je n'en construis pas. Parce qu'on n'a pas de place pour, et puis ce n'est pas la forme à habiter à long terme encore dans un petit pays. En France, c'est différent. En France, vous avez des règlements pour les logements, parce que vous êtes autiste au logement depuis Lurette, non ? Nous aussi, mais pas parce que nous manquons de qualité ou des choses comme ça. C'est un peu le cas encore chez vous, les années 60. C'est parce qu'on en a passé, parce qu'il y a beaucoup de monde qui vient chez nous. Alors, c'est clair, les qualités, l'espace et autres, c'est ce rêve de faire des espaces de ce type un peu un peu secret et autres, on peut les faire. Mais c'est très difficile de les exploiter dans un bâtiment en masse. Nous, ensuite, je peux faire des logements traversants sans problème, par exemple.
Mais, enfin, c'est évidemment une question économique, parce que ça fait faire des bâtiments qui sont minces, et on vous dit, mais des bâtiments minces, c'est pas possible. Et donc, je ne partage pas cette idée que d'un côté il y a les maisons et de l'autre côté il y a l'habitation collective. Justement, parce que chez Le Corbusier, bon, il prend une maison et puis il empile, il part de la Chartreuse des Mâts, il part d'une chose, et l'immeuble villa, c'est quand même un principe d'empilage de maisons avec cette idée d'introduire le sacré au cœur de ce qui est extraordinaire, parce que et c'est pas du tout c'est pas le sacré au sens
religieux.
Mais c'est une dimension qui veut réintroduire, et évidemment dans l'habitat collectif. Mais ça me fait penser aussi en parlant, je pense à cet immeuble de Dalto à Berlin, de Hansa Viertel, qui est extraordinaire. Tous les logements sont construits sur la figure de la maison à patio. Donc il empile en quelque sorte des maisons à patio avec le séjour qui a cette espèce de cœur de la maison. Je trouve de ce point de vue-là, le fantôme de la maison, il est dans tous les logements collectifs de Le Corbusier. Et ça, je pense que c'est une chose complètement fondamentale. Alors comment est-ce qu'ensuite on retranscrit soi-même, moi je pense que si Le Corbusier fait des choses habitables, je pense que c'est parce qu'il est habité par ce qu'il fait. Et je pense d'une manière générale, si on fait des choses habitables, on ne peut faire des choses habitables que si d'une manière ou d'une autre, et il y a plein de manières de l'être, on est habité à un moment par ce qu'on fait.
Parlons d'une autre dimension de son esthétique. Le mal foutu. Il s'est flatté en 1952 à peu près d'avoir inventé la poésie du mal foutu lorsqu'il a inventé le béton brut des décoffrages avec sa rusticité. Mais en d'autres endroits aussi, hein, si on visite à Chandigarh des choses, on voit que c'était extraordinairement mal foutu, extrêmement rude et rustique. Est-ce que cette valeur du mal foutu est une valeur que vous, contemporains, aimez employer, développer, jouir comme d'une esthétique?
En fait, je pense que le mal foutu, ça n'a pas le même sens dans la bouche d'un Suisse, dans la bouche d'un Français. C'est juste pour dire ça, parce que quand il parle du mal foutu, il dit mais les Suisses m'agacent avec leur truc. Donc c'est presque une chose autobiographique.
Il est en France depuis 35 ans.
Encore une fois, c'est aussi par rapport à une conception qui apparaît à ce moment-là aussi extrêmement lisse. Et Le Corbusier n'est pas un personnage lisse. Quand on voit les maisons Jaoul, elles sont débordantes. Bon, et aussi les joints débordent.
C'est aussi un plaisir qu'on cultive certaines générations, la rusticité des matériaux.
Mais en même temps, c'est quelqu'un qui fait très attention à ce qu'il fait.
Je crois qu'il y a l'idée d'échapper à des tyrannies. C'est-à-dire qu'en tant qu'architecte, on doit faire du beau. Et bon, on peut se poser la question de ce que c'est que le beau. On doit bien faire, on doit bien réaliser, etc. Et je pense qu'à un moment, aller chercher quelque chose de rugueux, prendre un peu, donner de l'expression aux matériaux et les laisser un peu libres, c'est une préoccupation qui habitait Le Corbusier, qui a nourri des courants entiers, le brutalisme, on pense aux Simpson, l'anglais, etc. Donc c'était une partie très importante de la fin du XXe siècle, qui inspire beaucoup notre génération, là, pour le coup. Et quand je parlais de champ d'ouverture de Le Corbusier, effectivement, le brutalisme, il l'a mis en exergue comme une position radicale, ce qui a ouvert aussi des champs dans l'art contemporain, ou concomitant. On pense notamment à l'Arte Povera, un courant très très fort italien, qui a porté ces valeurs, et qu'on retrouve aussi dans les préoccupations environnementales, où la rusticité, la vérité des matériaux, et les choses qui nous intéressent. Donc, oui, je pense que le mal foutu, je suis d'accord avec toi, c'est le terme, c'est un terme suisse qui faudrait traduire en français, en fait. Mais, et c'est un terme intéressant. Bon, nous, on appelle ça le brutalisme. Peut-être que...
Oui, enfin, le brutalisme, c'est les Anglais qui l'ont appelé comme ça, mais... Oui, alors. Où est-ce qu'il a dit exactement? C'est une conversation avec de radio, en 62, donc un peu tardive, 10 ans après les événements. Il explique, et alors, depuis la guerre, j'ai eu l'occasion d'employer enfin le béton, enfin par la pauvreté du budget, j'ai fait du béton brut, Ça a révolutionné les gens et j'ai fait naître un romantisme nouveau, le romantisme du mal foutu. Et à Harvard, c'est le premier bâtiment de Covid,
il le trouve trop bien fait.
Il dit il y aura du béton chic et impeccable à Harvard.
Voilà.
Il la trouve et puis du béton mal fichu quand même, etc.
Et là, Rodiro, peut-être. C'est un bon exemple, là, c'est extraordinaire. Il y a des parties là qui sont au niveau de l'expression du béton, mais un brutalisme incroyable. Oui. Mais avec des détails bien étudiés, pour une fois.
Rodiro.
Qu'est-ce que je vois maintenant, beaucoup de jeunes architectes, comme ça, moi, je ne construis pas tellement. Hein, donc, je suis toujours dans la rénovation. Mais c'est presque la question du mal foutu authentique ou pas. Parce que vraiment, aujourd'hui, on a, et en Suisse ici, et particulièrement à Zurich, on a vraiment du mal foutu qui n'est pas authentique. Parce que c'est vraiment, on cherche tout pour créer une mal foutu. Et là-bas, il y a vraiment des choses qui sont extraordinaires. Quelquefois, il n'est pas venu bien mal foutu, non? Quelquefois, les couleurs, c'est pas... Quand on commence à travailler aussi avec des pigments, non? Ça fait comme ça, dans les bétons, et oui, et c'est pas venu bien, parce qu'il n'est pas mal foutu. Mal foutu. ça, c'est une chose, c'est une nouvelle manière de regarder.
C'est autant plus de travail que bien faire.
Oui, oui.
Beaucoup plus de travail. J'en connais des fois.
Je veux que vous disiez aussi ce que vous pensez de ce qu'il appelait des objets à réaction poétique. Il a toujours, dans un peu toute sa vie, pratiqué ça, mais il y a des exemples peut-être plus manifestes dans l'après-guerre. Et d'ailleurs, dans l'exposition extraordinaire qu'il faut absolument que tu vois avant de partir à Paris, qui est ici, que ce soit comme je dis la photographie, là, il y a des exemples d'os, de cheval, de scie, etc. Bon, il explique en gros, promenez-vous, regardez les choses, vous trouverez des cailloux, vous trouverez des eaux de boucherie, vous trouverez des choses qui vont extraordinairement vous émouvoir et faire naître de nouveaux registres formels. Je ne cite là pas de façon précise, mais de façon comme je m'en souviens. Et il collectionnait des quantités de choses. Et pour faire rire un peu le public, j'ai noté une partie des listes des objets qui sont dans ses archives officielles à la Fondation Le Corbusier. Je vous rappelle qu'on nous a dit hier qu'il y avait 1260 boîtes d'archives à la Fondation Le Corbusier. On trouve dans la liste des archives conservées là-bas, catégorie Z1, trait d'union 11, ossements. 1, maxillaire inférieur d'un ovin avec 5 molaires, 32 cm. 2 à 3, crâne d'un canidé. 4, crâne non identifié. 5, os de boucherie. 6, mâchoire avec 6 dents. Et ainsi de suite. 10, os creux. 11, os poreux. 12, os en forme de crochet. 13, tête de canard. Etc, etc. Catégorie Z1, 13, galet, 1, galet noir avec des traits blancs en forme de ruban croisé, 1,8 cm, 27, galet gris en forme de main, 18,5 cm, etc. etc. Vous avez des catégories incroyables d'objets qu'il conservait pour, comme nous avons tous des beaux objets, mais lui, il en avait des centaines, et avec, tous ont été maintenant archivés, et son bibliothèque, certains sont d'ailleurs montrés dans l'exposition, il y a un petit galet que lui a offert René Burry dans l'exposition. Est-ce que vous avez ce même rapport à l'objet trouvé ? En tant que créateur, hein, en tant qu'architecte, parce que, en tant que fétichiste, on a tous ça, peut-être plus ou moins. Mais... Il y a 93 pipes dans les archives. 93 pipes.
Il faudrait poser la question, qui ne fait pas ça, ramasser des cailloux, ramasser des...
Non, j'ai eu ça un objet de doctrine. Il peut le prouver. Il peut prouver qu'à Ronchamp, il y a tel élément qui ressemble à une coquille de femme.
Il ne faut pas les ramasser en Turquie quand on
les chefs du valet de la police valaisan qui étaient pris par... Monsieur Varone a eu quelques problèmes.
Mais est-ce que vous avez, par exemple, des architectes aujourd'hui qui faisaient des structures tendues, comme Fraveto, hein, s'inspiraient beaucoup de toiles d'araignée, ils photographiaient des toiles d'araignée, ils essayaient de comprendre des tas de choses qui les émerveillaient. Beaucoup d'architectes aujourd'hui à tendance écologiste doivent à nouveau refotographier tel type de roches, tel type d'assemblage de bois. Est-ce que... Combaret, pardon.
Bon, je ne connaissais pas bien ça. Ce qui me laisse à penser qu'il y avait une tentation un peu organique dans le travail de Le Corbusier, bon, qui est sans doute apparue dans ses œuvres les plus tardives. Pour ma part, moi, je collectionne pas, je n'ai pas d'objets, je suis un mauvais consommateur, donc je m'intéresse assez peu aux objets. Bah, je pense qu'on a une culture qui est polluée, tellement il y a de choses, donc notre problème, c'est de choisir. Et donc, tout ce qu'on veut, on l'a à portée de main. Donc, quand on a besoin de trouver quelque chose, on le trouve. Et finalement, ce qui est très compliqué, c'est de, de référencer, d'organiser, de garder cette mémoire. Et heureusement qu'on a les moyens techniques pour le faire, donc je ne m'en occupe pas, je laisse à d'autres faire ça, ils font ça beaucoup mieux.
Mais moi. Tu pourrais chercher ces objets trouvés, par exemple, sur Internet.
Oui, bien sûr.
Des formes nouvelles, des choses inusitées. Non,
bien sûr. Alors évidemment, Internet est une mémoire collective absolument géniale, et on s'en sert beaucoup pour aller chercher des clichés. On est là dans une accumulation de signes. Ce qui est compliqué, c'est de donner du sens. Donc, alors chaque projet est une possibilité d'aller faire des recherches très importantes, sur Internet entre autres, mais par d'autres moyens aussi. Mais on n'a pas une mémoire où on va ressortir des fétiches qui vont guider le travail.
Ils ne sont pas archivés.
On a peu de.
Mais tu vas quand même chercher des objets qui vont t'émerveiller, des objets ou des couleurs ou des formes, ou je ne sais, des dispositifs pour nourrir tes projets.
Les images m'habitent, on est producteurs d'images et donc on est toujours à la recherche de nouvelles compositions, de nouveaux assemblages. C'est vrai que moi j'aime bien ce que disait Scott Brown, qui est donc l'associé de Venturi, qui disait finalement l'architecture c'est moins créer que choisir. Et cette idée d'organiser le choix est une idée qui m'obsède. Comment structurer des pensées, comment organiser des choix successifs. Et c'est un peu comme ça qu'on travaille à l'agence. Donc, c'est vrai que tous nos projets sont un peu différents, c'est qu'on essaie de ne pas avoir de préméditation par rapport à un projet, on essaie de repenser un univers autour d'une question singulière.
Mais par exemple, tout ce que tu vas aller chercher un peu en panique, en charrette, pour employer un mot d'ancienne école des beaux-arts, quand un projet te travaille. Pour prendre un autre exemple, Foster possède 2 ou 3 millions de photographies, je crois. Classé avec une personne qui est en charge, tout classé par thématique. C'est il veut un éclat de roche, il a 100 000, il veut tel type d'organisation d'une feuille, parce qu'il va faire un projet, il aura 40 000 organisations de feuilles, etc. Et quand je dis 1 ou 2 millions, c'est des chiffres vrais. Hein.
Ouais, c'est très intéressant, j'aimerais bien avoir ça, mais en même temps, il y a un côté un peu maniaque dans l'organisation, et est-ce que la structure ne tue pas finalement l'objectif finalement. Je pense que mettre en place une structure de ce type est extrêmement lourde et finalement, parce que finalement la structure ne prend pas le pas sur le travail de conception. C'est vrai qu'il y a un côté charrette où il y a toujours une urgence à retrouver un certain nombre d'informations, ce qui nous pose problème, hein, puisque même à l'intérieur de l'agence, on a du mal à se resservir d'un travail qui a déjà été fait pour retravailler. Mais en même temps, l'organisation est aussi un carcan qui peut...
Tu pourrais avoir ces objets trouvés immatériels, donc, dans un coin de ton cerveau. Donc une chose qu'un jour tu travailles,
oui.
Et tu as envie de la faire renaître.
Non, j'ai des obsessions.
Ce n'est pas des os de cheval, si.
D'abord, je ne crois pas trop au hasard. C'est-à-dire que je ne crois pas... Enfin, l'idée qu'on puisse ramasser des choses un peu... Et puis, bon, je ne crois pas... Enfin, ce rapport un peu hasardeux à l'architecture me pose problème. Par contre, oui, il y a des choses qui m'obsèdent, des idées qui me travaillent, qui vont passer de projet en projet jusqu'à ce qu'on les ait
un peu... Tu peux en renommer pour que ce soit plus...
Oui, certainement, tu me dis sur quoi... un travail sur le logement qui est une grande idée du XXe siècle, c'est comment passer du logement à la villa superposée. Bon, c'est un travail qui nous obsède. Qui fait qu'effectivement, je pense que l'avenir du logement se passe par cette interface avec l'extérieur, sous forme de loggias, de balcons, de terrasses, etc. Que la partie interne du logement, malheureusement, pour les raisons qu'on a évoquées, est extrêmement figée, mais que tout ce qui est articulation, interface avec l'extérieur, il y a encore énormément de choses à faire, et ça prend tout son sens, notamment avec les problématiques environnementales, les problématiques énergétiques, etc. Donc là-dessus, il y a l'extension du logement, comment apporter des plus-values qualitatives en termes de mode de vie dans le logement, créer de nouveaux usages, se fera pour l'instant, en tout cas en France, sur...
Ce sont des préoccupations qui te travaillent, ce ne sont pas des objets comme ça, un peu inconscients.
Un objet qui me travaille, bon, c'est le gris noir de Duchamp qui me hante depuis toujours, cette prise de position. Duchamp m'habite constamment. J'y reviens. Une autre image qui m'habite, c'est le boa qui avait avalé un éléphant de Saint-Exupéry. Comment un bâtiment peut englober comme ça des usages qui dépassent la forme même du bâtiment. Ça, c'est une image qui m'habite, qui revient d'une façon un peu récurrente dans les projets. J'ai comme ça des obsessions. J'en ai plein, mais ça pourrait. Je sais pas, c'est l'émotion, j'arrive chez le mal.
Rodolphe ou Giro? Thématique, Rodolphe?
Oui, point de vue objet. Je travaille tous les projets que je fais, travailler avec un ami artiste depuis plus que 25 ans, pour tout ce qui concerne polychromie et polysémie surtout. Et les objets qui se cumulent chez moi au bureau, c'est d'abord toutes les maquettes qu'on fait à la main. Donc ce n'est pas les maquettes, là, après, c'est pas des jolies maquettes, c'est mal foutu. Des maquettes mal foutues, comme vous dites, mais qui sont des particularités d'espace ou de rencontres, d'élimination d'espace ou bien d'ouverture d'espace, qui sont des compositions de l'espace et très abstraites. D'accord, ça, c'est évidemment des objets concrets et qu'on garde. Dans la plupart des cas, ils sont entiers, et puis j'ai un dépôt immense, quelque part, dans les containers. Mais j'en ai d'autres pièces qui sont plus près du bureau, qui restent à l'intérieur de l'agence, qui sont une multitude de cartons, de petits morceaux de carton qui sont l'œuvre de mon artiste, qui est un génie incroyable. Si je dis, j'ai besoin d'avoir dans tel et tel découpage d'espace, une tonalité, je reviens à Corbusier, c'est pas forcément le jaune et le rouge, c'est beaucoup plus subtil encore. Pour nous, ça ne suffit pas de prendre nos échantillons de CR et puis après les éléments-là. Donc, il prend le pinceau, il prend des gobelets comme ça. Dans le temps, il prenait une tasse de café et puis il a protesté, mais il a des gobelets. Alors, il avait X gobelets, il prend le pinceau et puis il te fait tout de suite 3-4 exemples dans la tonalité que tu veux. C'est quelque chose d'incroyable. Il te fait aussi format comme ça, mais plus grand. On sent juste la trace, mais c'est uniforme, incroyable. Il fait ça avec un feune, là, parce qu'il sèche tout ça en même temps. C'est un peu comme chez le coiffeur chez nous. Et puis là, j'ai une collection extraordinaire, des tas de cartons comme ça. Enfin, on a fait une exposition, là, c'est que les cartons. Et puis après, quelques photos de spécificités de bâtiments qu'on a construit. Et les gens trouvaient ça génial. Ils disaient, oui, avec ces cartons-là, le bâtiment a créé son ambiance. Mais sinon, je n'ai pas d'objet, en tout cas, que j'oserais dire devant tout le monde que je collectionne.
Un objet lié à la pratique architecturale, hein, bien sûr.
Oui, mais je dois faire une confession. J'ai été collectionneur.
De quoi? De timbres presque.
Non. une chose, c'est qu'il y avait toujours beaucoup d'objets que j'avais l'impression qu'ils me regardent. Sont des objets qui viennent moi. Et s'ils sont là, objets trouvés, alors quelquefois je les prends. Ça, c'est une chose. Avec cette idée-là, avec Arthur Hürg, avec les autres, on était fameux parce qu'on voyait nous passer dans les rues, il y a une vingtaine d'années, 30 ans à peu près, dans lesquelles tous les gens jetaient dehors qu'est-ce qu'ils avaient dans les maisons, et nous on était là-bas, toujours ramasser les choses et on a ramassé beaucoup de meubles des années 30, des sièges tonnets.
Qu'on remettait l'année prochaine dans la rue, de
nouveau. C'est ça. Un jour ou l'autre, on a commencé avec des dépôts, et maintenant on a des dépôts, et maintenant on a donné tous. Et il y a le musée des arts décoratifs de Zurich qui a accepté de les prendre. C'était une bonne chance, mais il y avait un. L'autre chose, c'est des rappels. Une expérience magnifique, c'était que j'avais une cliente, quand j'étais très jeune, et c'était une des premiers travaux. La cliente est contente quand on commençait le travail, elle dit « Ah, je vous donne un week-end à Istanbul. » Très bien, on va à Istanbul, comme ça j'achète toutes les épices, comme ça, tous les différents piments, non, comme ça. Et après, ça devient, aussi ces piments, c'est devenu les pigments pour peindre les... Des pièces de bois. Et c'est comme ça que quelquefois on utilise ces choses-là. Elles sont jolies parce qu'il y a les parfums d'Istanbul. Il y avait vraiment une orange jaune magnifique de ce piment. Et c'est comme ça que quelquefois toutes les choses trouvées, elles sont des choses trouvées qui viennent des autres. Mais c'est. Oui. Et après là, c'est difficile. Hein. Chasseur et collectionneur, ça devient quelquefois.
Mais est-ce que ces objets collectionnés vous ont transformé comme architecte ? Ou vous ont aidé à devenir quelque chose de particulier ?
quelquefois, on les a dans, dans le cerveau, non? Et il y a une forme qui retourne dans le projet.
Pour prendre un exemple, oui.
Je me rappelle, j'étais en Pologne, année 77, à Wrocław, et j'avais la chance de vivre dans un immeuble de Hans Scharoun. C'était magnifique, un immeuble pour jeunes, c'était aussi des petites cellules. Et ils étaient en train de jeter dehors tous les koïmans, comment dire, les courants-mains, non?
Les mains courantes.
Les mains courantes. Ils étaient jetés dehors. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai pris tout et je l'ai chargé tout parce que c'était tellement magnifique. Comme ils traitaient les choses, je l'ai emporté. J'avais ma vieille Peugeot 204 break. Je l'ai mis tout dedans et j'étais arrêté à la frontière entre la Pologne.
Qu'est-ce que c'est?
Exportation d'acier de la Pologne. Et ça, c'était dommage, mais je me rappelle chacune encore, cette pièce-là. C'était vraiment magnifique.
Bon, ça, tout à fait que la fenêtre. Le Corbusier, bien sûr, on connaît la fameuse polémique des années 20 avec Perret. Perret qui décide que la fenêtre verticale est la fenêtre qui encadre le mieux l'homme, qui correspond mieux à ses proportions, à sa station debout en plus. Et le Corbusier qui développe à l'époque, notamment, principalement, l'idée de la fenêtre en longueur panoramique qui installe l'homme dans le paysage. Ensuite, le Corbusier a pratiqué des fenêtres de toutes sortes, et si on faisait un catalogue des fenêtres de Corbusier, on aurait des émerveillements nombreux, des fenêtres voilées au fond des couloirs de la tourette, des grands pans de verre faits par des zénakis au bout du lore, des petites vitraux dont tu parlais avec les animaux, etc., ou les saintes vierges à Ronchamp. Donc c'est un énorme panorama de fenêtres. Le brise-soleil, énorme panorama. Est-ce que vous avez des types de fenêtres qui vous préoccupent, les uns ou les autres?
La porte-fenêtre, celle qui permet d'aller à l'extérieur. Pas simplement cadrer un paysage ou prendre de la lumière ou ventiler une pièce, mais celle qui permet d'aller à l'extérieur, donc, qui est prolongée par un balcon, par une loggia, par une terrasse, et qui démultiplie le logement. Donc ça, c'est aussi bien dans le bureau que dans le logement. Je pense que pour plein de raisons, il faut qu'on apprenne à ventiler par nous-mêmes nos espaces. Donc la porte-fenêtre, oui, permet de démultiplier.
La porte peut être très vaste, comme une porte de garage un peu, ou la porte
c'est grand, qui s'ouvre. Mais déjà que physiquement on puisse passer intérieur-extérieur, quel que soit le positionnement de là où on se trouve, ça me semble être une idée intéressante. Donc, le débat, moi, il m'a beaucoup amusé, le débat entre Le Corbusier et Perret. C'est comme ça, il faut toujours trouver une dualité, et ils ont trouvé leur dualité sur quelque chose qui était un petit peu artificiel et qui m'a permis d'écrire, de se répondre, etc. Moi, je crois qu'il y avait un prétexte comme ça pour entre le maître et l'élève, l'élève dépassant son maître et prenant son autonomie. C'est un peu comme ça que j'interprète. Je pense que c'est, comme tu le disais, finalement, le Corbusier prend énormément de liberté par rapport au percement en général. Hein, c'est même plus des fenêtres, c'est des percements sur lesquels il travaille. Et finalement, l'horizontalité, c'était. Ça, qui se retrouve dans les cinq éléments, c'est peut-être l'élément qui m'intéresse le moins.
La fenêtre?
La fenêtre, parce que finalement, la terrasse, c'est extraordinaire, tu en parlais tout à l'heure pour Marseille. Bon, la terrasse, c'est quelque chose qui revient très très fort dans nos préoccupations. Ça a été très longtemps la surface technique, ça devient une valeur d'usage. Extrêmement intéressante, donc jardin partagé, photovoltaïque, etc. Enfin, bon, usage multiple. La question du pilotis aussi, de la consommation de l'espace, qui était évoquée aussi par rapport à cette idée de consommation de territoire, qu'est-ce qui revient au sol? C'est une idée dans les cinq éléments qui est extrêmement actuelle, qui est très débattue. Le plan libre, bien sûr, sur comment on peut transformer, évoluer, faire évoluer nos espaces, est une préoccupation de notre époque. La question de l'enveloppe aussi, avec la façade libre, est une idée qui revient avec le développement durable. Peut-être celle qui est la moins pertinente, c'est la fenêtre horizontale, qui me semble une plus stylistique et moins conceptuelle.
La fenêtre de Le Corbusier m'a préoccupé quand j'ai découvert dans les livres, là, dans les bouquins, son pavillon qu'il a fait dans les années 20, je crois quoi, il a fait un pavillon à l'exposition.
Le pavillon d'Esprit Nouveau.
Voilà, c'est ça, l'Esprit Nouveau. Parce qu'il a fait, une fenêtre qui s'ouvre, comme on fait une porte qui s'ouvre pour passer. Ça veut dire qu'il a fait un volet horizontal sur une grande fenêtre. Et ben, j'ai, normalement, la fenêtre, elle est transparente parce qu'on ne passe pas, parce que la fenêtre, elle s'arrête à cette hauteur-là. Donc, elle est, logiquement, elle est vitrée. Et la porte, logiquement, elle n'est pas vitrée, parce que la porte, normalement, on passe à l'entrée à l'extérieur. D'accord ? Et la fenêtre qu'on ouvre, on passe au fond pas d'entrée à l'extérieur parce qu'on va déjà à de travers. Et ça m'a préoccupé quand même de faire des fenêtres au fond qui non seulement s'ouvrent pour ventiler, mais qui ouvrent un nouveau paysage, un nouveau regard. Et j'ai fait un collège suisse romande. Et puis j'ai construit ça sans dire ça à mes doigts. Et puis ni aux enseignants. Puis quand ils sont venus, ils ont dit où la fenêtre qu'on ouvre. J'ai dit, mais elle est là. Mais non, là, c'est pas la fenêtre, on ne peut pas ouvrir là. Parce que c'était un tache. C'était les couleurs Corbusier que j'avais fait, hein, rouge, jaune et bleu. Et puis c'est une tache. Non, mais on ne peut pas ouvrir en côté. Non, mais c'est ça. Mais c'est pas une fenêtre. C'est pas une fenêtre. Je dis, si, c'est une fenêtre. Non, mais une fenêtre, elle est transparente. Non, ça, c'est une fenêtre, au fond, qui vous ouvre, vous faites un passage du regard. C'est pas simplement. Le passage du regard sur une fenêtre transparente est donné d'office. Mais là, vous l'ouvrez et puis vous avez un nouveau panorama. Ça veut dire, à côté, il y avait des fenêtres transparentes pour la classe, il faut, parce qu'il faut un éclairage. Je me suis dit, quand j'ouvre, je cadre un morceau de mon paysage. La fenêtre devient aussi un tableau vivant. Et je vous assure, j'ai mis beaucoup de temps pour expliquer. Heureusement, je n'ai pas posé la question avant, je n'aurais jamais pu le faire. Ils n'ont pas compris qu'on puisse faire une fenêtre qui n'est pas transparente.
Au musée de la Chaux-de-Fonds, il y a une très très belle, très très grande baie, très très grande. Ouais. Et hier, c'était magnifique parce que tombait la première neige. Et là, il y a devant un petit jardin un peu avec des érables japonais. C'était un paysage extrême. Et il y avait un énorme cadre autour de cette baie, qui est une baie moderne, une baie de 3 mètres par 3 mètres, au moins, peut-être 4 mètres par 4 mètres. Ouais. Cet énorme cadre gris, on fait instantanément un tableau. C'était une idée.
Ah oui, c'est sensationnel. T'es content,
sensationnel.
Oui. Il y a d'ailleurs un phénomène aussi que ce que je dis à mes jeunes architectes au bureau. Si vous avez des petites, relativement de petites fenêtres, ne faites pas les cadres en noir. Parce que c'est incroyable ce qui se passe au moment donné où le cadre n'est pas clair par rapport à l'extérieur. Ça veut dire, c'est comme s'il y avait un phare de lumière qui vient sur l'œil au fond. Il est perturbé par le cadre de noir et puis ça rend la lumière. Au luxe, vous pouvez mesurer, c'est la même chose. Hein.
Oui.
Mais pour notre œil, ça fait un tel éblouissement que la fenêtre perd sa transparence.
Autre sujet, on passe vraiment du coq à l'âne, les femmes. Le Corbusier a beaucoup dessiné des femmes nues, y compris dans les bordels de la Casbah d'Alger, ce qui lui a été beaucoup reproché récemment par les études Gender Studies américaines et Béatrice Colomina. Mais en même temps, on peut pas dire que ça a été simplement pour sa délectation érotique, puisque ça se transcrit beaucoup dans sa peinture, dans sa tapisserie, et ça se transcrit beaucoup dans son architecture. Son architecture porte des formes, une partie d'entre elles en tout cas.
Connaissez-vous un architecte qui n'a pas ce fléau sur...
Mais justement, est-ce que c'est une chose que vous faites? Est-ce que vous dessinez des femmes nues pour enrichir vos architectures?
Non, mais j'ai fait un catalogue, et là-dedans, j'ai fait l'extension du théâtre de Vidier à Lausanne. C'était un bâtiment de Max Bill, hein, c'est un autre phénomène. On ne parle pas de ça. Mais j'entends avec une passerelle, et puis ce passerelle, il y a une sorte de métal déplayé qui, au fond, casse. Ce n'est pas de vitré, c'est qui casse la pluie. Puis quand j'avais fait une petite publication comme ça, je me suis rappelé d'un pont que j'ai dessiné pour Budapest, qui est une forme aussi comme un bas, une sorte de tricot, donc, comme ça, qui fait le pont, comme un tube tricoté comme ça. Et je dis, ah, pour cette photo de passerelle, il faut que je trouve une idée. Alors j'ai mis mon ami, et puis elle a un joli bar, monsieur, et puis elle a mis de côté, on va que la jambe. On va la jambe avec ce truc-là, puis voilà, je me suis dit, ben voilà, ça va donner un peu d'érotisme dans l'architecture.
Voilà. Emmanuel, ou Cornu. Mais si vous êtes gêné, on passe à autre chose, on a plein de gens.
Mon associé est une femme.
Oui, je suis
donc, bon, la question.
La question sortir de
Non, je suis toujours un peu méfiant. Je pense que c'était une mauvaise influence de Picasso sur le Corbusier, on va dire ça. Moi, j'entendais des interviews de Meyer récemment qui parlait encore de sa créativité, bien de son amour des femmes. Bon. Je crois qu'on quand même, il faut passer à autre chose. Hein. Franchement, il faut tourner la page. J'adore les femmes. Vous êtes magnifiques. Mais c'est, je sais pas, on est dans une société quand même. Je pense qu'on est, qu'on souhaiterait plus ouverte, équilibrée et moins sexiste.
Vincent.
Je ne dissocie pas ce regard qui porte de tous les autres regards. Enfin, ce n'est pas une case. En fait, le Corbusier, il regarde tout ce qu'il voit sans... Je trouve que l'exposition de photos, là, pour ça, il regarde des bouts de bois sur la plage, il regarde des... Hier, j'étais fasciné par toutes ces photos, je ne connaissais pas, ces photos qu'il fait du ruissellement de l'eau sur le sable et des vagues. Et en fait, il fait des photos vues d'avion aussi. On voit que c'est la même... Il a la même pensée à une autre échelle complètement différente, des grands fleuves qui se remplissent d'eau et qui... Non, je pense qu'il regarde tout. Sans aucune...
Quand je disais une femme, on pouvait très bien dessiner des ardeurs.
Oui. Enfin, pour moi, il n'a aucun... Alors, après, qu'est-ce que ça veut dire dans son
architecture ? Il y a l'inspiration du corps
humain. Je ne pense pas que ce soit quelqu'un, après, ça ressort d'une manière ou d'une autre, mais ce n'est pas parce qu'il l'a classé ou là... Ça ressort
de manière... critique, là, quand même. La modernité a été assez sexiste, assez virile, il faut quand même le reconnaître. C'est-à-dire que il faut sortir de ça, il faut le reconnaître. Je crois qu'on ne peut pas faire l'économie d'une critique de cette époque qui n'a pas été la plus équilibrée dans la parité homme-femme. La talent témoigne.
Enfin, ça, pour moi, c'est un autre débat. Enfin,
c'est la question. Non, mais Emmanuel, il y a une érotisation encore plus grande de notre société qu'à l'époque de Corbusier, Chaux de Fonds, en 1916. Sur la scène publique, dans les magazines, dans les... etc. Donc, on pourrait penser que cette chose-là, aujourd'hui, serait pour les architectes un facteur nouveau ou différent. La transformation des esthétiques et des thèmes.
Non, mais l'érotisme, oui. L'érotisme est une valeur partagée, je pense que aussi bien par les femmes que par les hommes.
Oui, oui.
J'ai pas de problème avec l'érotisme,
c'est à craindre.
Et tant mieux d'ailleurs. Mais par contre, l'idée de faire la femme soi-disant l'objet d'inspiration et une icône de la production, ça me semble. Bon, je prends du recul par rapport à ça. C'est pas mon truc.
Moi, il me semble que c'est beaucoup plus accidentel que ça. C'est-à-dire. Différents champs. Bon, effectivement, il y a cette coquille de crabe, je reviens à ces objets à réaction poétique qui est posé sur la table. Et je pense que lui-même est surpris par ce qu'il fait. Et alors, je veux citer cette anecdote avec Wojcinski que j'avais rencontré à Nancy à l'occasion d'un diplôme. Et puis, je lui parle de Ronchamp. Et puis, alors là, il me dit, mais. Alors là, on n'a pas compris. Qu'est-ce qui lui arrive ? Enfin, on pensait qu'il était un peu gâteux. Quoi. Cette chose quand même extraordinaire qui est Ronchamp, c'est un truc inouï. Alors il disait, oh, ben non, c'était pas mon corps. Je me rappelle cette phrase, c'était pas mon corps. Ronchamp, c'était pas... je ne le reconnaissais plus. Heureusement, après, il y a eu la tomate.
On parlait tout à l'heure du mouvement néo-corbusien des années 80 en France. Un des meilleurs d'entre eux, qui s'appelle Les Cagans, qui est mort il y a 2-3 ans d'un cancer, c'est assez jeune. Très bon architecte, hein, très rigolo, très bon architecte. Je me souviens qu'on avait organisé un colloque, un peu comme nous faisons là, mais avec Botta, avec tel ou tel, dans les années 80, à la Tourette, sur cette même question que devons-nous le Corbusier ou pas. Et Cagans exprimait presque son dégoût pour Ronchamp et son dégoût pour une chose que moi je trouve sublime, qui sont les absides de la Tourette, les absides rondes de la Tourette. Ça, c'est une chose qui n'entrait absolument pas dans ce que pouvait admettre ce grand Corbusien qu'il était. C'est curieux. Alors, la couleur. La couleur, on lui doit aussi bien la leçon du lait de chaud, le purisme blanc des années 20, et on lui doit les couleurs dont tu parlais, rouge, jaune, verte, que tu as pu en parler des années 60, etc. Et puis des gammes beaucoup plus lancées et beaucoup de choses. Il a immensément travaillé sur la couleur. La couleur architecturale, je ne parle même pas de couleur comme peintre. Par exemple, toi, tu travailles beaucoup la couleur. Peintre.
Et surtout,
tu vas même jusqu'à peindre des choses sur des bâtiments.
Je ne dissocie pas la question de la couleur, jamais de la question de la lumière. Pour moi, c'est... la couleur, c'est complètement lié à la lumière qu'on veut donner. Donc, bon, c'est vrai que c'est une question qui m'intéresse, mais c'est un peu difficile d'en parler. Mais effectivement, la couleur, moi, je la travaille sur des grands papiers craft. Je fais moi-même mes couleurs avec des pigments, avec des... alors, je connais pas bien je connais pas bien l'utilisation de chez Le Corbusier, la couleur. Je l'ai vue dans certains bâtiments. Je la vois ici. Je ne sais pas d'où c'est venu. Peut-être du fait que ma grand-mère était peintre, du fait que moi-même je ne me destinais pas particulièrement à l'architecture.
Mais tu étais un des premiers architectes de ta génération à faire des petits vitraux de couleur, par exemple, ça m'a surpris. Il y en a à Rennes.
Oui, hein, oui.
Et puis ensuite, à peindre des encadrements de fenêtres avec des couleurs inattendues. Ou...
Oui, oui. Je ne sais pas ce que je peux dire de plus. Effectivement, c'est une chose, la couleur et la lumière. Alors, dans les vitraux, c'est une chose très particulière, puisque la couleur passe à travers, la lumière passe à travers la couleur et ça lui donne une intensité.
Emmanuel, la couleur, parce que ta génération, notamment le groupe que tu as contribué à lancer, qui s'appelle le groupe French Touch, il y a eu une grande querelle en France il y a 5 ou 6 ans qui a opposé deux tendances et qui a été l'occasion de la remise d'un prix annuel qui s'appelait l'équerre d'argent. Et certains d'entre eux, dont Emmanuel Combarel, ont créé une sorte de scission qui s'appelait French Touch, qui voulait en quelque sorte désigner une nouvelle sensibilité dans laquelle ils se reconnaissaient.
De toute façon, je voudrais revenir aux questions précédentes aussi, la couleur, sur la question de la sensualité. Oui. Parce que c'est vrai qu'on chante, c'est la sensualité, et en tant que tel, c'est un travail extrêmement singulier. Et je comprends qu'il en a dérangé certains, je comprends qu'il a dérangé Kagan. Et il se trouve que nous n'avons pas, nous, je ne pense pas être... Il y a un certain puritanisme par rapport à ça, qui n'a rien à voir avec l'évocation de la femme pour avoir une chance. C'est un travail extrêmement sensuel sur de sculpture, de mise en relation de masses, certaines qui flottent, d'autres qui s'appuient sur le sol. C'est un travail merveilleux. Et là-dessus, c'est la même chose sur la couleur. Avec la couleur, Le Corbusier va renforcer d'une façon très graphique ses productions, ses bâtiments. Et c'est quelque chose que notre génération a beaucoup utilisé pour plein de raisons. D'abord parce que le graphisme, finalement, il y a des filiations très très directes entre architecture et graphisme, et des graphistes qui s'intéressent à l'architecture. Et puis surtout, le graphisme est un moyen extrêmement simple, extrêmement économique, de rajouter une dimension supplémentaire à l'architecture. Et quand on se trouve à gérer des budgets extrêmement faibles, faire un travail sur la couleur, finalement, est une intervention qui ne va pas renchérir l'opération, mais qui va peut-être la caractériser. Donc nous, on s'en est beaucoup saisi pour, quand on faisait notamment du logement social avec des très très faibles budgets, pour caractériser des opérations qui nous intéressaient, mettre en relief, donner des dimensions, créer des hors-d'échelle, changer l'échelle de perception des bâtiments à travers des aplats, des souligner un certain nombre de choses. Bon, c'est assez, assez artificiel. En même temps, je pense que ça a été... Enfin, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à travailler là-dessus. On continue à travailler sur le graphisme et l'architecture. C'est aussi une économie de moyens qu'on est en train de
faire. Comment expliquerais-tu que cette mode qui s'est développée en France, mais pas seulement en France, dans beaucoup de pays, depuis quelques années, qui est de recourir à des couleurs acidulées, que souvent les architectes appellent flashy, des couleurs qui sont des verts pommes très forts, des jaunes qui ressemblent plus au jaune d'une sucette qu'au jaune d'un jaune d'œuf, etc. Oui. Notamment chez toi, par exemple, chez votre bâtiment de Thiers, dans des grandes parois vitrées, dans lesquelles il y a des sortes de films, j'imagine, qui font que les fenêtres sont rouges ou jaunes ou vertes, je dirais acidulées un peu. Il y a un goût pour ça.
Oui, il y a un goût pour ça. À Thiers, on était assez loin, puisque finalement, toute la lumière est colorée, donc toute la lumière qui vient de l'extérieur, pratiquement à part le patio central, et retravaillé par des films colorés. L'idée, c'était de recréer comme ça des spatialités qui soient extrêmement caractérisées par des couleurs, et que c'est un bâtiment qu'on traverse et qu'on n'habite pas vraiment, et que chaque expérience spatiale soit caractérisée, donc chaque couleur envoyée à une partie du programme du bâtiment. Donc c'était assez simple. Mais avant ça, il y a eu un travail sur la couleur qui était assez drôle, qui est venu avec le développement durable. Donc on a commencé à faire le développement du bâtiment HQ, je crois qu'on a été parmi les premiers à le faire. Et puis on s'est aperçu qu'on mettait du vert, tout le monde était content. Et ça nous a amusé, et on a été de plus en plus loin, jusqu'à faire du vert fluo. Et ce qui pouvait poser problème, quand la couleur pouvait poser problème, on s'est aperçu que finalement, quand un bâtiment était développement durable et qu'il était vert, il y avait une expérience très littérale qui marchait très bien. Donc là, il y a eu comme ça de... Parce que moi, je crois que le bâtiment, c'est aussi... Moi, ce que j'aime dans le bâtiment, c'est l'aventure humaine. Ce qui m'intéresse plus que le bâtiment en tant que tel, le bâtiment en tant que tel, c'est le fruit d'un travail collectif, d'une pensée qui est développée avec un maître d'ouvrage, qui est développée avec des politiques, qui est développée avec tous les acteurs, les aménageurs, etc. Et finalement, nous, on essaie d'organiser une pensée à travers des intérêts qui ne sont pas forcément convergents. Et le bâtiment, quand je parlais tout à l'heure, le bâtiment qui était non prémédité et comme aventure singulière, finalement, le contexte, c'est par-delà le contexte géographique, c'est aussi un contexte économique, culturel, etc., qui va produire un bâtiment. Donc, finalement, la production de bâtiment, c'est un peu la résultante de toutes ces négociations qu'on a pu avoir avec tous ces acteurs. Et c'est assez intéressant de voir ce qui peut passer, ce qui pose problème, ce qui est blocage. Donc, sur la couleur, oui, c'était assez compliqué, surtout que malheureusement, quand même, les modernistes ont, d'une façon très puritaine, accusé le béton brut, souligné de blanc, parfois de couleurs très très mesurées, et que la couleur était une espèce d'interdit en France, jusqu'à à la fin des années 90. Et on a fait un premier bâtiment qui était à Argenteuil, où, pour des raisons, on venait de travailler avec des architectes...
C'est une résidence d'étudiants.
Étudiants, et on venait de travailler avec des architectes libanais, et à l'époque, il y avait une espèce de... une pensée un peu lourde autour de ça, et la question du doré posait problème. On ne faisait pas de bâtiment doré, c'était un interdit. Nouvelle travail de bâtiment inox, l'inox c'était bien, le doré c'était suspect. Et on a voulu, nous, mettre en place le doré comme valeur du bâtiment. Donc maintenant, il y a plein de bâtiments dorés, mais à l'époque, c'était vraiment un interdit. C'était une couleur qu'on n'avait pas le droit d'utiliser. Et nous, elle nous semblait assez pertinente dans le contexte dans lequel on était. Et ça a été la première transgression qu'on a fait sur la couleur, une transgression assez volontaire.
Giro, sur la couleur des...
Couleur, oui, des découvertes. Ce sont des découvertes qui sont venues par toutes ces restaurations qu'on a faites. Qu'est-ce que c'est les planches Bauhaus ? Qu'est-ce que c'est... Et c'est la connexion entre matérialité et couleur. Justement, de découvrir qu'une couleur bleue peinte en tempéra, c'est une autre chose si on est peinte avec un vernis minéral ou des autres couleurs. Et après, justement, découvrir que... Vous avez parlé justement de la fenêtre, que l'encadrement, ça doit être blanche, de découvrir que... Toute une architecture qui était blanche et noire, quelquefois gris, était toujours plein de couleurs, mais des couleurs vraiment avec des différences très subtiles. Non, on avait trouvé dans les Bauhaus des couleurs palettes énormes, juste une histoire qu'on a réparé le plafond de la mensa. Qui était peinte avec une couleur synthétique rouge. On avait parlé des toits, la statique qui s'est relaxée, alors il est tombé une pièce de la toiture, du plafond. Et là, c'était la chance de découvrir qu'est-ce que c'était vraiment là. Et on a pu refaire tout. C'était une interconnexion entre crépi, entre les traitements du crépi, comme il était fait. On a retrouvé à peu près des stucco lucido, des traitements comme ça, et de retrouver des pigments qui étaient absolument... on pouvait les pas utiliser parce que c'était très vénéneux, comment dire. Impossible d'utiliser sur la nouvelle réglementation, mais là on l'a fait en tout cas. Et comme ça, on a retrouvé vraiment, il y a une pièce dans laquelle on montre qu'est-ce que c'est couleur, matérialité, toutes ces choses-là.
Une petite citation de Fernand Léger. Vous savez que Fernand Léger est très bien connu de Corbusier. Il est allé à Athènes, d'ailleurs, au congrès d'Athènes. Et puis, il a eu un certain nombre de querelles. Ils ont à la fois voulu avoir des projets ensemble et puis des querelles. Et une querelle de Fernand Léger qui est très amusante, elle est de 1933. C'est une lettre avec Corbusier, une apostrophe avec Corbusier. Je ne sais pas si c'est une lettre manuscrite. Vous avez voulu distribuer la couleur vous-même. Donc, Léger parle à Corbusier. Permettez-moi de vous dire que dans une époque comme la nôtre, où tout est spécialité, c'est une erreur de votre part. Ne me disiez, ne faites pas les faire forger, que je sache. De quel droit avez-vous distribué les couleurs? De quel droit? L'époque spécialisée vous condamne. Il fallait tenir le contrat d'association entre nous trois, le mur, vous et moi. Pourquoi l'avez-vous rompu?
Le corporatisme.
Est-ce qu'on peut terminer ou est-ce qu'on peut continuer un peu?
C'est un peu juste, vu le
temps
que les personnes prennent,
alors j'ai préparé une dernière question. C'est une des phrases les plus célèbres de Corbusier, elle est extraite de Vers une architecture 1923. Une grande époque vient de commencer, il existe un esprit nouveau. Pensez-vous qu'une grande époque vient de commencer chez nous en 1912, en 2012. Vous ne pouvez pas pour cette réponse, vous pouvez réfléchir. Voilà, mais merci.